C'est très rare que je fais ça, que je texte le soir. Je vous texte pas jamais, hein? Mais notre prochaine invitée, qui est notre chroniqueuse de politique américaine, j'ai pas eu le choix d'y envoyer un petit texto hier. Écoute, c'était tout qu'un spectacle, mais moi, j'ai adoré ça. Parce que j'ai ri. Tu sais, j'ai trouvé que c'était deux personnages loufoques, puis j'ai beaucoup ri, mais je comprends que c'était pas du tout le but de la chose. Tu sais, puis je voyais les panélistes après. Eux autres, ils avaient pas trouvé ça aussi drôle que moi, là. C'était clair, net et précis. Alors, on va aller parler à une spécialiste de politique américaine. Elle est l'analyste politique américaine chez Cogeco Média, Valérie Beaudoin. Bonjour, Valérie.
Bonjour.
T'as-tu ri, toi?
Moins. J'ai ri de jaune.
Ben, ça veut dire.
Décevant.
Ouais, mais pourquoi? Ça veut dire que vous êtes mal préparé. C'est comme aller voir un film, puis là, vous avez des attentes trop élevées, puis pourtant, tu savais que ce film-là allait être plate. Ou tu sais, tous les Américains devaient savoir qu'il n'allait pas avoir de débat d'idées-là hier soir, là.
Mais je pense qu'on s'attendait que ça allait ressembler un peu plus à ce qu'on a vu en 2016 entre Donald Trump et Hillary Clinton. C'était encore moins, je vous dis, c'était moins cacophonique que ça. Moi, c'est ce que j'ai trouvé décevant, c'est qu'au début, là, puis on s'écrivait justement dans les premières minutes, on n'entendait rien. On n'était même pas capable de déceler ce qu'un ou l'autre disait. Et je trouvais que ça faisait cours d'école un peu parce que Chris Wallace, le modérateur, qui est d'ailleurs d'habitude très, très bon, était même pas capable de faire de la discipline. On entendait toujours « Monsieur le Président, arrêtez de parler. Monsieur le Président, laissez-lui parler. » Alors, je trouvais ça dommage pour l'électeur américain. Oui, pour nous, je trouve que c'était quand même un divertissement. Là, j'ai eu des moments, j'ai trouvé peut-être savoureux de répliques, mais je me mets dans la peau de quelqu'un qui regarde ça et qui se demande ça va être quoi chacun leur politique et pour qui ils devraient voter. Et je me dis, ils sont pas très, très bien servis par les deux personnes qui étaient là pour débattre.
Exactement. Et tu sais, même, ils parlaient tellement un par-dessus l'autre. Moi, j'avais pris les sous-titres, puis les sous-titres, ils écrivaient en double par-dessus. C'était pas lisable. Fait que c'était épouvantable. Non, mais bon, là, moi, je me suis mis dans la peau d'un Américain qui devait faire un choix ou en tout cas un début de processus de choix entre deux individus. Et toute cette façon de faire d'hier est reliée, je pense, à un manque de respect de l'un envers l'autre. Tu sais, je veux dire, probablement que Trump était beaucoup plus respectueux de Hillary Clinton, même s'il est capable d'en disgrâce, d'en faire beaucoup, là, mais que Joe Biden, qui trouve insignifiant de A à Z, et il l'a répété encore hier à plusieurs reprises.
Oui, c'est la formule qui fonctionne pour Donald Trump, justement, d'aller dans ces insultes-là et de continuer dans la même lignée, tout en l'appelant Joe. Fait que ça faisait un peu condescendant, un petit peu arrogant, mais ça, on est habitué que Donald Trump utilise cette formule-là. Donc, il y a eu des moments et les deux se sont insultés. Parce que, Donald Trump était vraiment arrogant envers Joe Biden, mais à un moment donné, Joe Biden lui a dit « Shut up ». Alors, tais-toi, parce qu'il n'était pas capable de placer un mot. Ensuite, il lui a dit « Est-ce que tu vas arrêter de japper? » Après ça, il l'a traité de clown. Il dit « C'est pas, je peux pas parler avec un clown comme ça. » Donald Trump de répliquer, dit « Moi, je redis jamais le mot intelligent parce que t'es pas intelligent, alors je veux jamais t'entendre dire ça à nouveau. » Ça, là, c'est vraiment des coups bas en politique. On est quand même dans une des plus grandes démocraties de la planète qui fait leur débat présidentiel et on se reste de clown et de pas intelligent d'un côté ou de l'autre. Ça, c'était assez particulier, mais je pense que les gens qui suivent Donald Trump, qui sont derrière lui, ça va pas changer leur décision de regarder un débat comme ça. Et au contraire, ça va les avoir divertis puis ils vont retrouver que, justement, Donald Trump a montré son caractère puis qu'il était capable d'aller débattre Joe Biden.
Oui, mais en même temps, l'Américain est encore face à un choix quasiment infaisable. Tu sais, oui. Hier, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ont pu pencher d'un bord ou de l'autre ou ils ont tout simplement fermé ça en disant « Bon, ben j'espère qu'ils vont en trouver deux autres parce que ça marche pas
». Ben, je pense que, écoute, le pourcentage de ce qu'on appelle des swing voters, là, donc des gens qui vont changer d'une élection à l'autre, c'est quand même vraiment minimal. Là. On est en bas du 10% des électeurs. Moi, je pense que ce que ça peut avoir eu comme effet, c'est que les gens n'aient pas le goût d'aller voter, comme en 2016, parce qu'ils n'étaient pas emballés par Hillary Clinton, qu'ils étaient déçus de Donald Trump. Il y en a plein qui ont décidé de rester à la maison. Moi, c'est ça vraiment ma grande peur. Joe Biden il a quand même marqué quelques points. Les moments où il regardait la caméra, qui arrêtait de débattre avec, de se chicaner avec Donald Trump et qui regardait directement dans la caméra et qui parlait aux familles américaines, ça, Ça, c'est les seuls moments où c'était difficile pour Donald Trump de l'interrompre parce que c'était des moments plus de sensibilité. Et s'il l'avait interrompu, ça aurait eu l'air fou, ça aurait eu l'air insensible. Donc ça, c'était les moments peut-être un peu plus forts de Joe Biden. Mais le fait qu'il était toujours en train de sourire quand Donald Trump l'interrompait, je trouve qu'il aurait dû encore plus prendre sa place par moment parce que vraiment, là, c'est Donald Trump qui a donné le ton dans les premières secondes et ça s'est déroulé comme ça jusqu'à la fin. Je pense que ce qui va pas aider Donald Trump, et là, je parle pas d'avec sa base, je parle d'avec l'Américain moyen indécis, c'est qu'il a refusé de condamner la violence des suprémacistes blancs. Ça, vraiment, c'est ce qui ressort du débat. Si on regarde les médias américains, c'est ce qu'on voit partout. Au contraire, il y a dit un groupe qui s'appelle les Proud Boys, « Stand back and stand by ». Alors, reculez, mais préparez-vous. C'est un peu ce qu'on comprend de son message-là. Alors, ça, vraiment, là, ça, je voudrais que c'est dans le spin médiatique du jour.
OK. Pour les autres choses, moi, j'ai appris, entre autres, je savais pas que Joe Biden avait un fils qui avait des problèmes de drogue. Là. Ça, Biden, il l'a pas nié. Il y a le 3,5 millions versé par les Russes. Y a-tu des faits comme ça? Trump, il garochait des affaires, puis je me disais, mais mon Dieu, t'sais, si c'est vrai en même temps, c'est quand même sérieux. Mais là, on peut pas vérifier rien, puis moi, je suis pas un spécialiste. Il a lancé beaucoup de choses qui sont quasiment pas vérifiables, qui sont n'importe quoi, là.
Oui, mais c'est ça, ce qu'on appelle le fact-checking, donc justement de voir qu'on le faisait pas en temps réel parce que c'est impossible de suivre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. On le sait que Donald Trump attaque beaucoup Joe Biden sur son fils Hunter Biden. C'est lui qui a eu des problèmes de drogue, c'est lui qui est allé travailler en Ukraine et que Donald Trump accuse justement d'avoir profité du fait que son père était vice-président pour avoir des avantages, pour avoir des millions de dollars. Donc, il l'accuse de ça, tandis que Joe Biden va réfléchir en disant que lui, c'est la marionnette de Vladimir Poutine en Russie. Alors, on s'accuse comme ça d'un côté ou de l'autre, mais on essayait vraiment, là, du côté républicain, de piquer Joe Biden pour le déstabiliser. Parce que quand on parle de ses enfants, on le sait qu'il peut plus sortir de ses gonds, se déstabiliser, perdre son fil d'idée. Je pense que c'était vraiment l'objectif d'hier. C'était vraiment de le piquer où ça fait mal pour que lui il soit déstabilisé et qu'il déparle et que ça démontre justement qu'il n'est pas capable d'avoir une idée continue et d'être clair dans ses propos.
OK, là, il reste 5 semaines. Bon, on n'en tire pas grand-chose.
Il reste 2 autres débats.
Qu'est-ce qui s'en vient? 2 autres débats entre les 2 mêmes individus, ça va être beau?
Oui, alors 15 octobre, 22 octobre, ça c'est les 2 autres débats présidentiels et j'espère que les modérateurs ont pris des notes et peut-être aussi un petit verre de vin pour se calmer à l'approche de leur débat parce que ça va être intense, ils vont devoir trouver la façon de prendre le contrôle, sinon ça va être encore le même chaos. Mais ce que je vais regarder, c'est le 7 octobre, donc c'est dans un petit peu plus d'une semaine, le débat entre Kamala Harris et Mike Pence, ça c'est le débat des candidats à la vice-présidence. Ça va vraiment être intéressant parce qu'on va être ailleurs. Je pense qu'il y a plus de gens cette année qui vont regarder le débat des vice-présidents parce que justement, ils ont vu c'était quoi le débat présidentiel. Ils vont peut-être se dire, on va regarder si leur numéro 2, c'est plus intéressant que les numéros 1.
OK. Puis ça donne, c'est drôle, ça donne un avantage à Biden, mettons, avant que ça commence?
Oui, parce que par rapport à Kamala Harris.
Oui, c'est ça. Je pense qu'elle est plus solide que Pence. Ouais. On l'a pas vu beaucoup. Puis c'est pas le gars le plus volubile non plus. Là. À moins que je me trompe, je connais pas non plus beaucoup. Là.
Non, ben il peut être quand même bon en débat, mais c'est vrai que Kamala Harris est supérieur, du moins de ce qu'on voit. Là. Il n'a jamais fait de débat de cette envergure-là. Mike Pence, oui, dans la dernière campagne, mais Kamala Harris, c'est une avocate. Elle n'a pas peur vraiment de prendre sa place. C'est quelqu'un qui s'exprime extrêmement bien et elle va être préparée. Donc, je sais que Mike Pence ne fera pas la même préparation que Donald Trump qui s'est préparé, lui, il dit, pendant environ 2 heures. Ça risque de leur côté d'être une meilleure préparation parce qu'on ne veut pas la même chose. Hein? Mike Pence n'est pas Donald Trump.
C'est vraiment différent. On se demandait, Valérie, hier, ici, autour de la table, comment y a-tu quelqu'un dans l'entourage de Trump qui est capable de dire hey, là, Donald, slack d'un tour, ben ta cravate est trop longue, tes cheveux en plastique. Ah, c'est quand on a appris hier nous autres qu'il avait payé 70 000 $ de coiffeur. Mmh. Oui. Tu sais, c'est quand même particulier, mais
est-ce qu'il y a un conseiller?
Y a-tu quelqu'un influent qui est capable d'y faire comprendre un petit quelque chose où il y a vraiment personne qui est capable d'y parler?
Ben, on dit que les gens qui sont capables de le conseiller, c'est vraiment ses enfants. Le plus qu'il va écouter, ça va être Ivanka Trump, entre autres sa fille, qui est sa conseillère aussi. C'est elle, des fois, qui semble lui comment je peux dire, le faire voir la raison, surtout quand c'est des trucs à l'international ou qui touchent les enfants. Ou Melania Trump aussi, on dit qu'elle a vraiment parlé au président Trump quand il y avait toute cette histoire d'enfants à la frontière américaine. On disait les enfants dans les cages, là, juste pour faire l'image les gens s'en rappellent. Mais vraiment, sinon, les autres conseillers extérieurs à cette bulle-là familiale, donc à son beau-fils et à tout ça, s'ils parlent trop, s'ils donnent trop leur opinion et qu'ils sont pas des yes-men, eh bien, c'est la porte. Parce que si on faisait la liste, on en aurait besoin de plus qu'une chronique pour voir qui a quitté la Maison-Blanche depuis le début, le jour 1 de la présidence Trump. Il y en a pas mal, il y en a des dizaines. Alors, je pense que oui, justement, quand on essaie trop de changer ce que le président veut faire, ben il y a une porte et c'est la porte qui mène vers l'extérieur et c'est terminé le mandat à la Maison-Blanche. C'est carrément ça.
D'ailleurs, Biden, il lui a rappelé hier qu'il y avait bien du monde qui avait été sacré dehors puis qui avait quitté son entourage. Puis je me souviens pas de la réponse à Trump. Là. Des fois, il y a des bouts qui étaient inaudibles, là, mais il lui a très bien rappelé. Dans les deux cas, donc, moi, là, quand je regarde ça, c'est encore là comme une personne, ben, un innocent, fait que un gars bien ordinaire, je vois un gars qui s'attaque aux enfants de l'autre, et ça, c'est très grave, et c'est inutile dans un débat politique. Puis de l'autre bord, j'ai un gars avec qui tu veux t'obstiner, puis qui fait rien que sourire. D'ailleurs, c'est ça que je t'avais texté. Moi, quelqu'un qui rit quand on essaye de se débattre, puis, tu sais, Trump avait quand même des airs très sérieux, là. Fait que, des deux côtés, c'était zéro, puis t'as raison, depuis le début, je t'écoute, puis si j'étais américain, actuellement, j'irais pas voter.
C'est exactement ça. C'est la peur qu'ils ont en ce moment de dire est-ce qu'il y a aucun candidat qui s'est élevé au-dessus de la mêlée et qui a été exceptionnel, extraordinaire. Là, on n'a pas eu le droit à ça du tout. Et quand on pense que nous, les débats ici au Québec, au Canada, ça peut être chaotique, ben pour les gens qui n'ont pas vu le débat hier, j'invite à regarder des extraits. Là, vous allez voir qu'on est ailleurs. On est vraiment, vraiment ailleurs. Ils avaient une pensée d'ailleurs hier pour les traducteurs, hein, ceux qui faisaient la traduction en direct. Imaginez d'avoir, quand nous, on comprenait même pas ce qu'il disait, de devoir traduire en français ou dans une autre langue le débat, c'est quelque chose, hein?
C'est extrêmement difficile. En tout cas, une chose est sûre, Valérie, c'est que tu vas probablement regarder l'élection du Québec, hein?
Oui.
C'est certain que tu ne pourras pas y aller, là, c'est quasiment
ça. Non, c'est ça, exactement. Ben oui, parce que plus ça avance, plus il n'y a pas de façon, surtout que la COVID, c'est pas contrôlé là-bas. Puis ici, on est aussi dans des zones rouges, autant à Montréal, je vous entendais tantôt aussi à Québec. Donc, et aussi, faut pas oublier, je pense qu'on s'en est parlé la dernière fois, le résultat, on risque de pas le savoir comme à l'habitude le soir du 3 novembre. On va le savoir des jours plus tard, voire des semaines plus tard, s'il y a tous ces gens-là qui décident de voter par la poste. Donc, il faudrait que je passe vraiment une immense période de temps pour attendre le résultat. Donc, je risque de regarder ça avec attention là, de chez moi.
Il y a des snowbirds qui m'ont dit cette semaine qu'ils avaient peur d'aller en Floride, pas rien qu'à cause du COVID. Ils ont peur que Trump, s'il est battu, qu'il refuse le résultat puis qu'ils veulent pas se tasser. On peut pas aller jusque-là puis à une guerre civile aux États-Unis. Ça n'a pas de maudit bon sens.
Ben c'est parce qu'il y en a qui disent que beaucoup des supporters de Donald Trump sont armés et là, on les voit dans les rues quand il y a des manifestations anti-Trump ou du mouvement Black Lives Matter. Ils se disent si on conteste les résultats, et justement, il a dit hier à une tranche de ces gens-là, stand by, en voulant dire attendez avant d'agir, ben on le sent un peu comme un message de justement je vais peut-être avoir besoin de vous si les résultats de l'élection ne fonctionnent pas. Donc je comprends certaines personnes d'avoir peur. J'ai même vu des Américains qui habitent sur la côte ouest, là. Donc on n'est même pas dans un État où il y a beaucoup de républicains comme en Floride et tout ça, et qui ont dit je veux être prêt à déménager rapidement si ça vire mal aux États-Unis et de rentrer au Québec. Donc des gens qui ont la double citoyenneté, qui veulent rentrer au Québec. Si après l'élection, c'est le chaos comme on peut penser. Vraiment, il y en a qui ont des plans qu'on appelle de contingence. Là, on est rendu là pour des Américains.
Mais moi, je me souviens, lors de l'élection en 2016, j'avais des... C'est arrivé à quelle date l'élection, donc, en 2016?
C'était le 8 novembre, si je me trompe pas.
C'était le 8 novembre,
là,
OK. Donc.
Ouais, autour de... Je peux vérifier, là, mais je me rappelle pas de la date exacte, mais c'est toujours au début du mois de novembre.
Donc, c'était un peu avant l'élection. J'avais des familles américaines chez moi. Et dans les deux cas, ils disaient, non, nous autres, si Trump est élu, on quitte les États-Unis. Évidemment qu'ils l'ont pas fait, là. Parce que je les suis sur Facebook, puis je vois bien qu'ils n'ont pas bougé d'où ils restaient. Là aussi, il y avait de la peur à ce moment-là qui s'est avérée fausse, parce que, tu sais, des fois, des gens peuvent se servir de ça pour faire changer d'idées certains électeurs. Fait que de là à inspirer la violence, c'est sûr que si on regarde, je pense aux petits couples là, qui défendaient leur maison avec les mitraillettes, là, c'était très, très chic. Là. Ça, c'est des supporters de Trump. Fait que c'est certain qu'avec des images comme ça, on peut créer une certaine inquiétude. Alors, on continue, mais on va se reparler au lendemain du 7 octobre. Ça, c'est le prochain, c'est le débat entre les deux vice-présidents, c'est ça?
Oui, exactement, entre Kamala Harris et Mike Pence, le 7 octobre prochain. Je vais avec plaisir vous donner mon compte-rendu là-dessus.
Merci beaucoup, Valérie Beaudoin.
Bonne journée, bye-bye.
Au revoir, Valérie Beaudoin, chroniqueuse de politique américaine chez Cogeco Média. Fait que vous autres, votre choix est fait, vous votez pour...
Par la poste.
Tellement contente de ne pas pouvoir voter.
Il y a un auditeur qui a écrit sur au 25-226 tout à l'heure, il disait, écoute, pis c'est vrai, là, on cherche des remplaçants pour ces deux individus-là. On dit, hey, les Américains peuvent pas élire ni un ni l'autre. Là. Mais il s'est dit, tu pourras regarder dans ta cour, hein, t'as un Régis, toi, qui aurait peut-être besoin d'être remplacé. T'as un Justin qui aurait peut-être besoin d'être remplacé aussi. Fait que c'est vrai que dans notre cour aussi, on a peut-être à regarder si on est bien servi par les instances politiques.
J'ai plus de circulation à faire, mais j'ai des éléments de circulation. Faut que je t'ai donné là en rafale. Grosso modo, là, Henri IV puis de la capitale, c'est de la boîte. Un matin, là, c'est très, très complexe.
Enlever l'asphalte?
Ouais, exact, exact. Plus d'asphalte, ça roule dans les conduits d'égout. Juste en dessous. Non, ça roule difficilement, honnêtement, sur les deux artères. Même la traversée sur la rive nord, il y a des ralentissements sur le pont Pierre-Laporte. C'est un peu plus difficile ce matin qu'à l'habitude.
Je trouve ça intéressant.
Quoi?
Les gars, Justin ou Trump? Justin Trudeau ou Trump?
Hey, c'est une drôle de comparaison, là, mais...
C'est ça que tu viens d'insinuer.
Parce que là, t'as l'air...
Ben, moi, je dis que... Non, mais...
T'as l'air d'y avoir proposé un coup de poing dans la face ou un coup de pied dans les gosses, là. C'est un des deux.
C'est ça, c'est ça. Je vais me sauver. Je voterai pas plus, là, tu sais. Je sais pas. Justin est moins pire. Hein, mais on t'a beau pas l'aimer, là, c'est moins pire quand même. Il y a un fond d'intelligence.
Hein? Il dépense beaucoup.
J'en connais plein du monde comme ça, moi, par exemple.
Oui, mais lui, il gère un pays.
Ouais, c'est ça. Mais c'est Sophie coûte cher, hein, je pense bien.
C'est Sophie?
Ah ouais, oui, ça coûte cher. Hey, OK, on s'arrête quelques instants. Bougez pas, on est toujours sur Twitch live. Si vous voulez nous voir agir durant les annonces, on bouge pas, on fait pas grand-chose. On est sur Twitch, vous écrivez Dupont le matin et vous allez nous voir.